Avant d'ouvrir la Bible, parole de Dieu, nous demandons au Saint-Esprit de nous éclairer dans notre réflexion. La formule rituelle et consacrée, Seigneur, de ce moment, c'est « Ta parole est la vérité, enseigne-nous par ta vérité ». Et combien c'est vrai, Seigneur, ta parole est la vérité. Elle est aussi, comme Jésus-Christ, le chemin, elle est la vie qui nous anime, le chemin qui nous mène à toi. Alors, Seigneur, nous te demandons tout l'éclairage de ton Saint-Esprit pour que cette parole devienne vivante en nous. Et à l'instant, il était question de sève, de sarment, de porter du fruit. Nous voulons porter du fruit pour toi, Seigneur. Et c'est en comprenant ta parole et en comprenant tout ce qu'elle veut nous enseigner que nous porterons du fruit, non pas pour notre gloire, mais pour ta gloire, Seigneur. Amen.
Amen.
Parmi les textes du jour, j'ai retenu deux passages, celui, vous l'avez peut-être lu aujourd'hui, celui de Jérémie, Jérémie chapitre 23, les quatre premiers versets. Donc Jérémie 23, de 1 à 4. Je vous laisse le temps de trouver, comme ça chacun peut lire dans sa langue. Malheur aux bergers qui perdent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Au braquet de l'Éternel, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui font paître mon peuple. Vous avez disséminé les brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici que j'interviendrai contre vous, à cause de la méchanceté de vos agissements, au braquet de l'Éternel, et je rassemblerai le reste de mes brebis. Dans tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les feront paître. Elles n'auront plus peur, elles ne trembleront plus, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Et puis ensuite, dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, Marc 6, nous lirons du verset 30. Au verset 34, Marc 6, verset 30 à 34. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car beaucoup de personnes allaient et venaient et ils n'avaient pas même le temps de manger. » Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, et on les devança là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. Voilà pour la lecture. Le point commun, vous l'avez certainement trouvé dans ces deux petites lectures, il est question de bergers, de troupeaux, de pâturages, de brebis. C'est un ensemble qui forme une image. Je crois que c'est une image d'abord qui revient très souvent dans la Bible. Je me dis, tiens, c'est vrai, ça revient très souvent pour toutes sortes de raisons. C'est peut-être tout simplement parce que c'est une image qui était, pour les gens des temps bibliques, une image très parlante. Pour voir des moutons, il faut allumer la télé et avoir un reportage sur Arte qui nous parle des bergers dans les Pyrénées, dans les Alpes. Bon, on peut voir parfois par-ci, par-là, des troupeaux, mais bon, ils sont des enclos, c'est plus tout à fait la même chose. À l'époque, les troupeaux, les brebis, les bergers, ça faisait partie du quotidien des gens. Donc, l'image est très parlante, très explicite. Dans l'Ancien Testament, on trouve toutes sortes de passages où cette image est évoquée. Vous avez par exemple, on a lu Jérémie 23, malheur aux bergers qui dispersent le troupeau. J'aurais pu lire le psaume 23, l'Éternel est mon berger, il me conduit dans des verts pâturages. Ou encore le psaume 80, qui présente l'Éternel comme le berger d'Israël. Dès le début, Dieu est présenté voilà, comme le berger d'Israël. Mais c'est quand même dans le Nouveau Testament qu'on trouve le plus souvent cette thématique qui revient, et tout particulièrement avec Jésus, et tout particulièrement dans ses paraboles. Alors, naturellement, s'il est question de berger, de pâturage, de brebis, de troupeau, il s'agit bien sûr d'une métaphore, hein, d'une sorte de... une image. Et qu'est-ce qu'elle représente? Très simple, les brebis représentent, alors, on va dire les hommes dans leur dimension spirituelle, on va dire les âmes, n'est-ce pas, les créatures de Dieu, que Dieu veut ramener dans son royaume. Les bergers sont celui ou ceux qui guident et protègent ces brebis, qui les mènent au pâturage, et précisément les pâturages, ce sont les lieux de destination idéalisés, le royaume des cieux, la vie éternelle, etc., où ces brebis pourront s'épanouir. Voilà, donc une métaphore. Alors, c'est très intéressant, à l'époque du néolithique, on va faire un petit peu d'histoire, de préhistoire. À l'époque du néolithique, l'homme a commencé à domestiquer les animaux. Les animaux qui étaient sauvages, il les a domestiqués. Et à partir de cette époque, tous les animaux qui ont été domestiqués, mais tout particulièrement les moutons, les brebis, ils ont perdu toute capacité à se débrouiller tout seuls dans la nature. Ils sont quelque peu dénaturés, c'est-à-dire que ils sont tout à fait incapables de trouver les pâturages, de s'organiser en troupeau. Ils sont incapables de se préserver des prédateurs, les loups, les ours, etc. Et donc une brebis qui se séparait, parce que les moutons ont gardé un instinct tout de même, c'est l'instinct grégaire. L'instinct grégaire, c'est l'instinct de troupeau. Hein, vous avez vu que les moutons, ils restent toujours bien rassemblés. S'il y en a un qui, vous connaissez les moutons de panure, il y en a qui se jettent à l'eau, ils se jettent tous à l'eau. Bon, hein, voilà. Ils ont gardé que cet instinct. Mais alors, donc, une brebis qui est séparée du troupeau, eh bien, pour elle, ça s'annonce très mal. Elle est perdue, dans le sens où elle ne sait plus, elle panique. C'est une situation que j'ai vécue, je vous dis ça rapidement, on avait une maison dans les Cévennes, une maison de famille, en plein cœur dans le parc des Cévennes. Et une fois, un voisin qui était berger, il est venu nous trouver, et le garçon, mon frère et moi, on était jeunes, hein, on avait 13, 15 ans, les garçons venaient vite m'aider, il y avait une brebis qui s'est échappée. Je crois savoir où elle est partie, parce qu'elle part exactement à l'inverse de là où elle aurait dû partir, et il faut la retrouver avant la nuit. Alors, on est allé, on l'a trouvée, elle était coincée, elle avait montée, paniquée. Elle s'était retrouvée tout en haut d'une petite colline, coincée entre un rocher et un buisson. On l'a attrapée, on l'a ramenée. On a vécu la célèbre parabole, la célèbre parabole de Jésus qui, le berger, et oui, c'est ce qu'il a fait, quand il a vu qu'il manquait une brebis, il a abandonné tout troupeau, alors il a laissé les chiens garder le troupeau, et il est parti chercher la brebis perdue. Alors voilà pourquoi dans ce passage de Marc, Jésus est ému de compassion. Il réalise que les gens, au moment où il descend de la barque, tous ces gens n'ont pas de berger. Ce sont des brebis perdues. Et quand il est question de la compassion de Jésus, c'est vraiment la grosse émotion chrétienne. Ému de compassion. Et qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, il va se mettre à les enseigner, c'est-à-dire il reprend son rôle de berger, alors qu'il avait programmé de se reposer. Je ne sais pas si vous vous souvenez du texte. Alors, mettons-nous à l'écart, alors qu'il reposait, il n'avait même pas le temps de manger. C'est horrible, horrible. Ni le temps de se reposer. Eh bien, Jésus laisse tomber le repos, il laisse tomber le repas et le repos, et il se met à les enseigner. Alors ça, c'est un point qui est quand même à souligner. C'est que si Jésus enseigne, eh bien c'est parce que au départ sa motivation, c'est parce qu'il éprouve de la compassion. Il faut faire un lien entre les enseignements de Jésus et la compassion. Si Jésus n'avait pas eu compassion des foules, il ne les aurait pas enseignés comme il les a enseignés. On va y revenir à cette compassion. Alors on va faire maintenant, on a fait de l'histoire ou de la préhistoire, on va faire un petit peu de l'étymologie. En vieux français, on ne disait pas le berger, on disait le pâtre. Le pâtre, avec un accent circonflexe sur le A, puisque l'accent circonflexe il remplace toujours le S. Alors vous allez voir pourquoi. Le pâtre. Alors c'est un mot d'origine latine, bien sûr, qui a donné également le verbe paître. Le mot pâturage, tout ça c'est la même racine. Et qui a donné aussi le mot pasteur. Voilà. Dans des vieilles bibles, alors celle-là je ne sais pas, mais dans les vieilles bibles, les vieilles éditions, on voit souvent le bon pasteur au lieu du le bon berger. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais c'est intéressant. Parce que ben, nous, dans nos églises, nous avons des pasteurs. Alors effectivement, le pasteur, dans une église comme la nôtre, une église réformée, c'est effectivement le berger, celui qui est censé conduire le troupeau. Seulement, voilà, attention, le bon berger, le vrai, il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Alors, ça ne retire en rien les qualités de nos pasteurs dans notre union d'église, mais attention, bien sûr que le bon berger, quand Jésus dit « Je suis le bon berger », il n'y en a qu'un, c'est lui. D'ailleurs, Jésus insiste, là, si vous prenez le chapitre 10, presque tout entier, de l'évangile de Jean, c'est le chapitre où Jésus reprend toute cette thématique, « Je suis le bon berger, je suis la porte des brebis, elles s'entendent de ma voix, elles reconnaissent ma voix, elles me suivent, etc. » Et par la même occasion, il dénonce, comme dans Jérémie 23, les mauvais bergers qui dispersent et perdent le troupeau. Alors, bien entendu, aucun homme ne peut remplacer, se substituer à Jésus, quand bien même il est investi du ministère, très honorable, de pasteur, pour remplir pleinement cette fonction de berger, le bon berger qui nous amène au bon pâturage auprès du Père. Jésus est le seul chemin, on l'a marqué là, le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin, la seule vérité qui conduise au Père, il est lui le berger suprême. Cependant, les choses ne sont pas si simples. Vous savez que Jésus a eu à cœur de transmettre, avant de rejoindre le Père, dans le ciel, de transmettre le flambeau, de passer le relais. On voit par exemple, au jour de la résurrection, Jésus qui dit à Pierre, paix mes brebis. Alors, P-A-I-S, pas P-A-I-X, autrement dit, prends soin de mes brebis. Il le consacre pasteur. Il le consacre berger. Pasteur, qu'il n'y ait pas de confusion. Hein. Il le consacre, oui, berger de ses brebis. Puisque lui-même, donc, va retourner auprès du Père. Et puis, de fil en aiguille, les disciples, des disciples, des disciples, etc. Cette mission pastorale se transmet de disciple en disciple. Et je crois pouvoir dire que quiconque se veut disciple du Christ, on va dire même témoin de Christ, se voit donc confier cette mission de prendre soin des brebis du Seigneur. C'est clair qu'un chrétien qui a donné sa vie au Christ, qui a reçu cette nouvelle naissance, il se voit confier la tâche du berger, prendre soin des brebis. Je me suis dit, mais d'ailleurs, ça nous donne l'occasion de voir quelque chose de très concret dans le commandement suprême que Jésus donne à ses disciples. Il dit, bien sûr, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, il le rappelle, hein, c'est dans l'Ancien Testament. Et il rappelle aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, aimer son prochain, c'est quoi? C'est lui faire une grande déclaration d'amour? Pourquoi pas? C'est déjà sympa. Mais non, c'est très concret. Aimer son prochain comme soi-même, n'est-ce pas avant toute chose, prendre soin de son prochain, alors d'autant plus si c'est une brebis perdue, avoir le désir, la volonté de le conduire vers le Père, comme un berger conduit son troupeau vers les bons pâturages. Une autre image. Dans les toutes premières pages de la Bible, dans la Genèse, dans le chapitre 4, nous voyons que Dieu, à un moment donné, s'adresse à Caïn, juste après qu'il ait tué son qu'il a tué son frère, Abel. Et il lui pose cette question, il lui dit, qu'as-tu fait de ton frère? Alors lui, je sais très bien le Seigneur ce que Caïn fait de son frère, mais il lui pose la question. Qu'as-tu fait de ton frère? Et Caïn ne trouve rien de mieux à répondre que « Suis-je le gardien de mon frère ?» Eh bien, je crois que si je pose cette question au Seigneur, « Oui, me répond-il. Oui. Suis-je le gardien de mon frère ? Oui, tu es le gardien de ton frère. » Parce que si mon frère est perdu, comme l'a dit de la parabole, eh bien, d'une certaine façon, oui, j'en suis le gardien, parce que Dieu m'a établi berger sur le troupeau. En quelque sorte, nous sommes donc tous, nous qui avons cru et qui voulons suivre Jésus, nous sommes tous des pasteurs. C'est la bonne nouvelle du matin. Et on manque de pasteurs. Mais non, nous sommes tous. Alors, vous avez compris, bien sûr. Il y a la fonction, bien sûr, qui est le ministère qui est donné à des gens qui ont une vocation particulière, c'est clair, c'est clair. Mais, quelque part, nous avons tous cette responsabilité pastorale. Prenez-le dans le sens que vous voulez. Alors, on parle parfois, d'ailleurs, même du sacerdoce universel, et on a peut-être là déjà un peu le sens. Oui. Le sacerdoce, l'intermédiaire, oui, le sacerdoce, c'est le prêtre, c'est l'intermédiaire, c'est le berger qui conduit le troupeau. Bien, si nous comprenons que nous avons à prendre soin des créatures de Dieu, tout comme un berger prend soin des brebis qui lui se confient, il ne faut pas oublier non plus l'autre côté, l'autre versant du problème, c'est la responsabilité que nous avons, et particulièrement une responsabilité dans le cas où nous serions de mauvais bergers, comme il est dit dans Jérémie 23. Malheur à nous si nous sommes de mauvais bergers qui dispersent le troupeau. De quelle façon un mauvais berger peut-il disperser le troupeau? Alors, dans, en sortant de l'image, hein, bien sûr, application à la vie de l'Église, eh bien, c'est lorsqu'il y a contre-témoignage, par exemple, avec une vie en total désaccord avec les préceptes de l'Évangile. Mais que le Seigneur nous en préserve. Que le Seigneur, combien de brebis perdues seront restées perdues parce qu'elles auront eu un regard sur l'Église très négatif. Très négatif. Alors dans l'histoire, bien sûr, l'Inquisition, tout ça, ok. Mais maintenant, tout de suite, combien de fois les Églises commettent des choses qui ne donnent pas franchement envie de suivre les bergers en question pour aller vers je ne sais quel pâturage. Alors je voudrais terminer, conclusion, avec... je vous l'ai déjà dit mille fois, mais c'est pas grave, je suis à la retraite, j'ai l'âge d'avoir des marottes et de radoter, donc je vais radoter. J'aime bien terminer avec, comme conclusion, une parole de Jésus. Parce que là, au moins, je suis sûr que je ne me trompe pas. Avec Jésus, on ne peut pas se tromper. Et il nous donne la clé dans ce petit texte de Marc 6 que nous avons lu, la clé de compréhension des choses, puisqu'il nous a dit, voyant la foule, il en eut compassion. Et ça, donc, voilà, c'est le mot-clé, la compassion de Jésus. Eh bien, puissions-nous éprouver cette compassion, compassion pour ces milliers d'hommes et de femmes, que nous côtoyons, nos voisins, nos amis, nos parents, etc. Des milliers d'hommes et de femmes qui sont perdus, qui sont des brebis perdus pour le Seigneur. Et pire encore, qui ne savent pas qu'elles sont perdues, ces brebis. Ils ne savent pas. Peut-être les gens que Jésus a rencontrés en sortant de la barque, ils ne savaient pas eux-mêmes qu'ils étaient en recherche, qu'ils avaient soif de quelque chose, mais ils ne savaient pas de quoi. Et Jésus, encore une fois, a été ému de compassion. La conclusion, elle est là. Demandons avec force, avec ferveur, demandons au Seigneur qu'il nous donne de cette compassion. Un tout petit peu de sa compassion. Pas besoin de beaucoup. Un tout petit peu, ça sera déjà énorme. Amen.